Les experts de France Bleu Toulouse. Les experts.
Il est 9h08 sur France Bleu Toulouse. Les experts, le dimanche, c'est avec vous. Oui, vous qui nous écoutez sur France Bleu Toulouse, en nous appelant au 05 34 43 31 31, vous allez nous confier votre nom de famille et nous, nous allons le remettre à Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc puisqu'il s'agit bien de parler généalogie et donc de l'origine de votre nom, de ses subtilités, de ses découvertes, de ses, on va dire ses surprises parfois parce que vous nous avez déjà emmené loin. Je rappelle qu'on est parti sur le Titanic grâce à vous, Jean-Pierre Huguin.
Bah, je crois qu'aujourd'hui, ça... Bonjour Pascal.
Bonjour
tout d'abord.
Jean-Pierre.
Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on va certainement quelqu'un va avoir des surprises également.
Bon, alors avant de plonger sur le premier nom, à savoir Ponsol, Annie est déjà avec nous d'ailleurs. Annie, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on va évidemment parler de votre nom, hein, c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais vous savez que Jean-Pierre Huguin, donc une marotte en dehors de la généalogie, c'est de s'intéresser autant qu'il fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'orage là ? Parce que Jean-Pierre Huguin, je vous raconte la vérité. Hein, il rentre dans le studio, il fait « Depuis ce matin, vous dites qu'il va faire beau, moi je vous dis qu'il va faire de l'orage. » Alors hier j'ai annoncé de l'orage, il n'y en a pas eu. Aujourd'hui je n'annonce pas l'orage, vous me dites qu'il y a un risque d'orageux ?
Ben, c'est-à-dire que Pascal, on est dans une ville et dans sa proche banlieue où il est relativement facile de déterminer la météorologie qu'il va faire dans la journée.
Oui.
Et il se trouve que moi j'habite à l'ouest de Toulouse et que ce matin on ne voyait pas les Pyrénées, mais c'était très très couvert, pour pas dire d'un gris très très foncé, et je pense que la fin de journée va pas être sereine avec le soleil, Pascal.
D'accord, bon, on en reparlera la semaine prochaine. Hein,
voilà.
De toute façon. Annie, bon, rebonjour, vous habitez où ?
Villeneuve-Tolosane.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez du beau temps, de l'orage, vous ? Qu'est-ce que...
Moi, je me suis levée de très tôt ce matin. C'est ouais. Gris, c'est vrai. Là, mais il y a quelques nuages qui passent, mais il fait beau, il y a le soleil.
Bon, on va rester sur ça pour l'instant. Merci Annie de nous avoir...
Ça arrosera le jardin.
Ben oui, bon, de toute façon, il ne faut jamais s'en faire. De toute façon, les températures vont rester très élevées, hein, donc c'est même pas gênant. Annie, vous nous avez appelé pour étudier votre nom de famille. Quel est-il, s'il vous plaît ?
Ponsol.
Que vous écrivez ?
Alors, l'orthographe réel, je ne le connais pas très bien, c'est le nom de mon grand-père.
D'accord.
Donc, c'est moi, je le prononce Ponsol, P-O-N-S-O-L. Je ne sais pas s'il y a deux L ou un seul.
Alors, je vais me tourner vers notre expert du dimanche, Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc, et on va commencer par ça. Parce que les orthographes, vous l'avez déjà expliqué plusieurs fois, évoluent au fil du temps. Alors, moins maintenant, parce que ça y est, c'est fixé, mais il fut des époques où on écrivait en rajoutant des lettres, en enlevant des lettres, en transformant des lettres aussi, ça pouvait même changer l'orthographe du nom. Donc là, Annie nous parle de Ponsol, P-O-N-S-O-L. Est-ce que c'est déjà une piste pour le départ de l'origine du nom ou...
Alors, lorsque Annie a eu notre charmante hôtesse d'accueil, Blandine, au téléphone, donc Annie avait fait part qu'elle ne connaissait pas exactement l'orthographe du nom. Mmh. Et lorsque Blandine m'en avait parlé, j'ai dit, écoutez, vous faites pas de soucis, Ponsol, pour moi, il y a plusieurs orthographes, mais la réalité n'a qu'une source.
Ah,
voilà.
C'est déjà bien. Donc, peu importe l'orthographe, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les variantes.
Voilà.
Mais ça ne change pas le sens profond
non.
du nom. Et bah, ça tombe bien parce qu'on va commencer par ça. Annie, écoutez bien.
Alors, Annie, Ponsol, en fait, s'écrit P-O-N-S-O-L-E.
D'accord.
Ça y est, au moins ça s'est fixé.
Voilà, c'est un nom qui est surtout porté dans l'Ariège et dans les départements voisins. Il s'agit d'un nom de lieu-dit, voire d'un nom de domaine qui est devenu ce qu'on appelle un patronyme, qui est dérivé du latin pont, P-O-N-S, ou pont, P-O-N-T. Dans votre cas, c'est la dérive du latin pont, P-O-N-S. Il désigne sans doute celui qui est originaire de Ponsol, P-O-N-S-O-L-E, qui est un hameau de Betchat dans l'Ariège. Je ne sais pas si vous connaissez Betchat, mais il y a un hameau qui s'appelle Ponsol, avec un seul L dans l'Ariège.
D'accord.
Bon, alors déjà là, on est fixé. Et alors, puisque justement, vous aviez quelques hésitations sur l'orthographe, ça permet de s'intéresser aux variantes de votre nom.
Alors, variante, j'ai même rajouté forme voisine, puisqu'on a Ponsola, P-O-N-S-O-L-A, Ponsol, P-O-N-S-O-L-E, Ponsol, P-O-N-S-O-L-E-S, Ponsol avec deux L, E-S à la fin, et Punsola même, P-U-N-S-O-L-A. Et je ne les ai pas toutes listées, il y en a d'autres encore. Hein.
D'accord. Au niveau des données démographiques, Ponsol tel qu'écrit maintenant, donc P-O-N-S-O-L-E, n'est pas un nom extrêmement rare. Alors, on n'est pas dans la fourchette la plus haute, mais c'est pas...
Oui, mais enfin, bon, je dirais que c'est quand même dans une... Allez, on va dire dans une phase relativement basse quand même, hein, Pascal, bon. Puisqu'il y a eu 524 naissances sur le siècle entre 1891 et 1990, et on en revient à l'Ariège, puisque le premier département qui arrive, c'est l'Ariège avec 141 naissances. Ensuite, la Haute-Garonne avec 106 naissances. Et il y a trois autres départements dans l'ex-Midi-Pyrénées. Il y a les Hautes-Pyrénées, le Tarn et Garonne, le Gers et le Tarn où on trouve également des naissances Ponsol, PONSO2LE.
Et alors, c'est pas proportionné, parce qu'habituellement, quand il y a peu de naissances, la mémoire des hommes permet de se rendre compte qu'il y a peu de soldats qui sont tués lors de la Première Guerre mondiale. Et là, si, il y a eu un tribut lourd payé.
Eh bien oui, parce qu'il est à constater, alors il se trouve que dans notre association, depuis 2 ans maintenant, nous faisons le relevé des monuments aux morts, mais vraiment d'une façon complète sur les soldats qui sont gravés sur les monuments aux morts. Et je rappelle que tous les monuments aux morts doivent avoir les noms des soldats gravés dessus. Les noms des les monuments aux morts, il n'y a pas de nom, sont interdits par la loi.
Ah bon ?
Et actuellement, il y a le maire de Rennes qui est en train de faire rajouter 2500, de faire mettre 2500 noms sur le monument aux morts, puisqu'il n'y en avait aucun. Donc j'en reviens à ça. Il faut savoir, Pascal, que le département de l'Ariège a payé un très très lourd tribut au niveau des soldats tués en 1914-1918. Alors pas seulement Ponsol, mais il y a énormément de soldats. C'est pratiquement eux qui n'en sont pas revenus, tous ces fameux soldats de l'Ariège. Voilà.
Et alors donc, ça se voit avec son nom.
Oui.
Hein.
Oui, puisqu'on a dit 524 naissances, en fait, sur le siècle. Et il y a eu 35 soldats morts en 14-18, dont 16 originaires de l'Ariège et 7 de la Haute-Garonne, ce qui prouve bien, vraiment, malheureusement, où on a été chercher de la chair à canon, si on peut dire.
Ah bah clairement, oui. Annie, vous savez désormais tout du nom Ponsol, y compris l'orthographe, donc vous avez bien progressé. Vous aviez fait des recherches, vous, de votre côté ?
Non, pas du tout, mais c'est une grande-tante avec qui on en a discuté. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais te donner l'origine, je vais demander.
D'accord, bah écoutez, vous savez maintenant. Est-ce que vous avez Internet, Annie ?
Non.
Bon, alors on va vous garder la fiche et je vais vous la faire envoyer par Christine ce matin.
Pascal, je voudrais juste rajouter un petit mot à l'attention d'Annie. C'est votre grand-père paternel, donc, je suppose, ou maternel, monsieur ?
Maternel.
Maternel. Ce qui serait intéressant d'avoir, c'est d'obtenir l'acte de mariage, l'acte intégral de mariage de vos parents. Et au niveau de l'épouse, au niveau de votre maman, donc qui se nommait Ponsol, de son nom de jeune fille, vous auriez le nom de son papa et ça vous permettrait de voir les signatures, comment ces personnes-là signaient Ponsol.
D'accord.
Pour confirmer l'orthographe.
Oui, je peux le demander.
Voilà. Bah écoutez, pour poursuivre l'enquête sur ce nom Ponsol, on vous amène la fiche, elle arrivera chez vous, ou si vous d'ailleurs vous pouvez passer à la radio, ce sera encore plus simple. Je vous renvoie au standard de France Bleu Toulouse et vous allez traiter ça avec Christine. Merci beaucoup Annie de nous avoir permis d'étudier ce nom de famille Ponsol. Vous qui nous écoutez, votre nom de famille nous intéresse comme chaque dimanche. C'est à partir de 9h que Jean-Pierre Huguin part enquêter sur votre nom. 05 34 43 31 31. On va continuer dans un petit instant. Avec vous, Claude, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous retrouver après un peu de musique, on va respirer. Quel est le nom que vous vouliez faire étudier ?
Mon nom de famille, Bratschi.
Que vous écrivez ?
B-R-A-T-S-C-H-Y.
À tout de suite.
Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, ou toi, plus moi. Forcer le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus serre, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez. Et tous ceux
ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. D'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir, insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Je suis plus seul, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Et entrez dans la danse.
Grégoire sur France Bleu Toulouse, toi plus moi, il est presque 9h20.
Vous aussi, contactez les experts de France Bleu Toulouse, 05 34 43 31 31.
Et évidemment, il faut être doté d'un nom de famille. Le vôtre, quelqu'un de votre famille, une personne dont vous voulez rechercher les origines. Et c'est Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc qui fait tout le travail, comme chaque dimanche, dans Les Experts sur France Bleu Toulouse à partir de 9h. Claude, rebonjour.
Bonjour.
Alors, le nom de famille que vous voulez faire étudier, c'est le vôtre, Bratschy.
Oui.
B-R-A-T-S-C-H-Y.
Oui.
Alors, j'ai eu peur, je vous l'avoue, parce que l'origine de votre nom, ça commence par... Tout ce que je peux dire, ça c'est ce que vous allez continuer à nous expliquer, Jean-Pierre Huguin. Et en général, ça signifie que la fiche est assez courte. Or là, ça n'est pas le cas, vous avez quand même une masse d'informations à donner.
Oui,
donc
parce
je vous donne
que,
la parole.
Voilà, merci Pascal. Lorsqu'on fait, en fait, lorsqu'un nom nous est soumis, on parle de l'origine et de la signification. Alors, la signification, je n'en ai pas trouvé. Par contre, l'origine, oui. Alors, je vais inverser les rôles. Est-ce qu'on peut demander à Claude ce qu'il sait sur sa famille, sur son nom de famille ?
Claude ? D'après mon père qui était dans l'administration, ils ont fait des recherches.
Oui.
Il paraît-il qu'on serait d'origine suisse-allemande.
Ah. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué de l'émission, mais Jean-Pierre Huguin fait régulièrement des petites danses de la joie quand ça va avec le sens de ce qu'il a déjà trouvé. Jean-Pierre Huguin, c'est à vous.
Alors, effectivement, Bratschy, donc, dont je n'ai pas la signification, Dieu sait pourtant que j'ai cherché, que j'ai fait appel à mes collègues et au réseau, mais personne n'a pu me dire ce qu'il en était. Alors, tout de suite, on va retirer de l'origine ce que Pascal pensait. Il me dit, oh là là, ce nom-là, c'est un nom de l'ex-Russie. Non, c'est pas du tout le cas.
Ah, ça ressemble bien, la prononciation Bratschy.
Non, c'est bien une famille qui est originaire de Suisse, et plus précisément du canton de Vaud, V-A-U-D. Alors, je vais arrêter donc tout de suite qu'on ne fasse pas d'amalgame ou de confusion. Votre famille est donc vaudoise et les hommes sont des Vaudois. Mais il ne faut pas confondre les habitants du canton de Vaud avec les personnes qui font partie de l'église et qu'on appelle des Vaudois, puisque cette église avait été créée par une personne quand on a été le meneur qui s'appelait Monsieur Vago, V-A-G-O, ou Vadé, V-A-D-E, ou Vado, V-A-D-O. Donc vous ne faites pas partie de cette église, vous êtes vraiment Vaudois parce qu'habitant du canton de Vaud. Alors le canton de Vaud, c'est un canton de Suisse, dont la capitale, je pense, vous le savez, et la plus grande ville d'ailleurs, c'est Lausanne. Alors, elle se situe en Suisse romande, en fait. Hein. Il y a un point très élevé au niveau des Alpes qu'on le connaît, puisque ça s'appelle le massif des Diablerets. Hein, il culmine à plus de 3000 mètres. Son point le plus bas est également quelque chose de très connu, puisque c'est le lac Léman. Alors, il faut savoir que c'est un canton qui s'étend sur une vaste zone, puisqu'il part de la chaîne des montagnes du Jura, au nord-ouest, aux Alpes dans l'est, en passant par le plateau suisse. C'est la plus grande région du territoire suisse, en fait, hein, et en bordant d'ailleurs la rive nord et l'extrémité, et le lac Léman, et la majorité d'ailleurs du rivage lémanique, et sur le canton de Vaud. Voilà.
Ouf. Ah non mais attendez, parce que ça c'est que l'apéritif, parce que là maintenant on va plonger dans l'histoire de votre nom, parce que vous il y a une histoire sur votre nom.
Alors il y a une histoire parce qu'en fait le nom Bratschy, même en Suisse, c'est pas un nom qui est énormément porté ou diffusé. Par contre j'ai cherché et j'ai trouvé grâce aux archives nationales de l'administration suisse-allemande qu'on appelle la NARA, N-A-R-A. Alors, en 1856, il vous faut savoir qu'il y a eu 10 immigrants, Bratschy, qui sont partis de Suisse pour les États-Unis. Et alors, ils étaient tous les 10 de la même famille. Et ce qui est assez rigolo, on va dire, pour des Suisses, ils sont partis pour les États-Unis à bord d'un navire dont je vous donne le nom du navire. Comment il s'appelait en mille, Pascal ?
Oh ben non, moi je le sais, j'ai l'affiche sous les yeux. Sinon, j'aurais pas trouvé. Le nom, c'est Zurich.
Voilà.
C'est des gens qui sont partis de Suisse à bord d'un navire Zurich.
Faut le faire quand même. Hein.
Pas mal, hein, très fort.
Voilà. Alors, je pense que c'est surtout un navire qui servait justement pour les immigrants suisses pour les États-Unis. Hein. C'est pour ça que ce bateau a été nommé comme ça. Donc en 1856, ils sont partis, ils sont arrivés donc aux États-Unis le 6 février. Alors, ces 10 personnes étaient membres de la même famille. Il y avait le père, qui se prénommait Samuel, qui avait 47 ans, la mère Elisa, qui avait 38 ans, et il y avait 8 de leurs enfants. 4 filles de 2, 10, 14 et 15 ans, et 4 garçons de 3 mois, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Ils étaient partis du Havre, en Seine-Inférieure, ce qu'on appelle de nos jours la Seine-Maritime. Et ils ont voyagé, non pas en cabine, mais sur l'entrepont, parce que je pense qu'à l'époque, en 1856, les traversées étaient certainement d'un prix relativement excessif, et partir à 10 personnes, c'est pour ça qu'ils ont voyagé sur l'entrepont. Le but de cette famille, ils étaient agriculteurs, donc ils devaient rester aux États-Unis. Par contre, y sont-ils restés ou pas? Je n'en ai pas trouvé trace.
Voilà. Ouf, belle histoire.
Oui.
Vous avez appris plein de choses, j'imagine, Claude.
Oui. Parce que si on en disait tellement de choses, on est suisse, allemand, corse, italien.
Alors pas du tout. Non, mais suisse, vous y étiez. Donc ça, là, maintenant c'est confirmé. Vous le retrouverez sur l'affiche, hein, ce que vous retrouverez sur le site du Cercle Généalogique de Languedoc. Et alors c'est pas tout, parce qu'on va retourner dans le canton de Vaud.
Oui, on va enfoncer le clou pour que Claude soit certain que vous êtes bien du canton de Vaud au niveau de votre famille et pas d'Italie ou d'autres pays européens. J'ai trouvé dans le canton de Vaud 4 personnes Bracci qui étaient employées dans une mille et dans les salines d'une commune qui s'appelle Bex, B-E-X, au 19e siècle. Il y avait Jacob qui était né en 1778, qui a été engagé à l'âge de 28 ans. Ensuite, il y avait François, qui était un de ses frères né en 1781, Félix né en 1815, et puis David qui était né en 1789. Et ces données-là, je les ai trouvées sur le musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne.
Voilà pour l'histoire de Bracci. Il reste les fameuses données démographiques. Et alors là, vous voyez, tout à l'heure je disais que c'était pas extrêmement rare à 500. Là, on part sur un nom qui est quasiment pas porté en France.
Ben non, puisque 27 naissances sur 4 départements. Le Tarn-et-Garonne, 23 naissances, donc je suppose que Claude, vous devez avoir de la famille en Tarn-et-Garonne.
Oui, j'ai le frère de mon grand-père qui avait eu une médaille, parce qu'avant ça faisait, il avait eu 21 gosses.
Ah oui,
donc prix cognac.
D'accord, donc les 23, c'est une famille, une petite famille,
une seule,
pas mal.
Peut-être ils n'ont pas tout déclaré parce qu'il y en avait qui étaient morts à la naissance, mais après il y avait mon père où je suis né à Castelsarrasin.
Si, mort à la naissance, les déclarations sont faites.
Oui,
hein, ils sont déclarés morts nés, mais ils sont faites.
C'était pas comme maintenant.
Et alors, donc 23 naissances en Tarn-et-Garonne et 2 naissances en Haute-Garonne sur le siècle.
Bon,
voilà.
Ben ça y est, la famille est reconstituée. Complètement. En tout cas, pour la France. Merci beaucoup, Claude, d'avoir permis d'étudier ce nom Bracci. L'affiche, hein, comme d'habitude, sera dès cet après-midi sur le site du Cercle Généalogique de Languedoc. Vous avez Internet ?
Non, j'ai pas Internet, non.
Bon, alors je vous envoie l'affiche. On l'a...
Une dernière chose, Pascal.
Oui.
Claude a la chance, on va dire, de n'avoir aucun soldat tué en 1914-1918 dans sa famille.
Oui, pardon,
il avait 18 ans et son grand-père était gazé dans la guerre de 14-18. Et après, je n'ai pas su exactement si il n'y avait pas de Bracci qui était décédé.
Non. Sur le site Mémoire des Hommes du gouvernement, enfin, puisqu'on a un site Mémoire des Hommes qui est sur le ministère, sur gouv.fr, que vous pouvez trouver d'ailleurs, il n'y a aucun soldat Bracci référencé. Alors, s'il a été gazé, il est fort probable, comme malheureusement beaucoup, qu'il soit décédé bien plus tard que la Première Guerre. Et c'est pour ça qu'il n'est pas, si vous voulez... nommé dans Mémoire des Hommes.
Voilà, Claude.
Ça m'a fait grand plaisir. Maintenant que je suis à la retraite et que bon, j'ai perdu mes parents sous peu, il n'y a pas longtemps, je tenais à savoir mon origine. Voilà.
Bah écoutez, vous retrouverez la fiche, vous pourrez la consulter à nouveau pour avoir l'ensemble des informations que vous a trouvé Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc. Merci beaucoup Claude, on vous souhaite un très très beau dimanche. Vous aussi, vous voulez faire étudier votre nom de famille, avoir votre lot de surprises, d'émotions, et ben c'est le moment de nous appeler. 05 34 43 31 31, le standard de France Bleu Toulouse vous est ouvert comme chaque dimanche pour votre nom de famille avec les experts généalogie.
France Bleu. Il n'arrive pas de manger des fraises.
Ce dimanche, direction La Pérouse Fossade pour déguster la tarte aux fraises géante.
Pâte sucrée,
fête foraine,
crème pâtissière,
vide grenier
et des fraises.
Défilé des confréries, intronisation des célébrités et bien sûr, dégustation de la plus grande tarte aux fraises. Ce dimanche, les gourmands se donnent rendez-vous à La Pérouse Fossade, un événement France Bleu Toulouse.
Dans 20 ans, vous souhaiteriez...
Ah, bah qu'il y ait plus de TER dans ma région.
Que l'on puisse mettre des camions sur des trains.
La région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées lance les états généraux du rail et de l'intermodalité. Pour construire ensemble les transports de demain, participez à la grande consultation publique sur régionlrmp.fr/rail.
Votre avis construit la région.
Pour cette 11e édition de Total Festum, la région vous invite à la grande fête des cultures occitanes et catalanes dans près de 100 communes du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées jusqu'au 7 juillet.
Concerts, spectacles, expositions, conférences, balletti, plus de 350 animations vous sont proposées. Pour trouver la manifestation Total Festum proche de chez vous, vous pouvez consulter le programme complet sur le site larégionlrmp.fr.
Avec la région, fière de nos cultures.
France Bleu Toulouse.
On fait la route ensemble avec le Crédit Mutuel. Banque, assurance et téléphonie. Des solutions pour toute la famille.
À 9h30 sur France Bleu Toulouse. Alors, comment ça se passe sur la route? Bah, plutôt bien. Il n'y a pas de grosses difficultés si vous êtes sur la rocade toulousaine. Je dis pas de grosses difficultés pour être poli, hein. Il n'y a aucune difficulté sur la rocade toulousaine. Si vous êtes au sud de Toulouse, sur la Pyrénéenne, faites attention, hein, c'est toujours fermé à partir de Muret et sur 9 km environ. Donc, vous allez devoir emprunter la D817. D817 sur laquelle, oui, pas manqué, il y a un peu plus de circulation et du coup, il y a un véhicule en panne. Véhicule en panne à peu près à hauteur de la route de Toulouse. Donc, on est vers le sud-ouest à hauteur de Roques-sur-Garonne. Vous êtes prudent si vous êtes dans le secteur. Et puisqu'on en a parlé, véhicule en panne, le véhicule dont on vous parle depuis ce matin, qui est arrêté juste après la sortie 19 du Palais sur la rocade extérieure, donc si vous remontez en direction de Montaudran pour aller rejoindre la 62, vous allez le croiser. Il est sur le bas-côté, hein. Il n'y a pas de difficulté de circulation, mais il n'a pas encore été dégagé, donc prudence. France Bleu 05 34 43 31 31, ça c'est le standard de France Bleu Toulouse, c'est vous qui allez l'appeler si vous avez un nom de famille, hein. Je commence à vous n'en avez pas, ça n'est pas possible. Donc vous nous appelez 05 34 43 31 31 pour confier votre nom de famille à Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc. Vous allez apprendre des choses surprenantes.
Comate sur ma comète, tu me laisses des promesses obsolètes. Dans l'ambulance on danse, baiser volé à la sauvette. Un amour parallèle, je me noie dans tes yeux caramel. En zone de turbulence n'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime, une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les larcènes parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. J'aime quand tu dors dans mes habits, quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières on peint des blessures infinies. Une rupture animale, dire adieu à l'horizontale. En zone de turbulence on danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime, une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les larcènes parasitent ma boîte crânienne.
qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. Que restera-t-il de nous? Des parfums, des images. Je verrai toujours à travers les foules ton visage. N'oublie pas de m'oublier, un jour sur deux on s'aime. Sur deux, je traîne à peine. N'oublie pas de m'oublier, les ragots, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne.
Navi sur France Bleu Toulouse, avec le nouveau titre de Navi, tout simplement, Des Turbulences.
Les experts de France Bleu Toulouse.
Il est 9h34, si vous ne l'avez pas encore fait, vous nous appelez 05 34 43 31 31, le standard de France Bleu Toulouse, pour nous confier votre nom de famille, celui que nous allons jeter en pâture à Jean-Pierre Huguin, qui va s'en emparer avidement pour rechercher tous les secrets de votre famille et l'histoire de votre nom surtout. Alors justement, puisqu'on le fait de temps en temps, on a la chance d'avoir des noms de famille autour de nous, parfois surprenants, parfois étonnants, et surtout qui entrent en conflit avec vos propres recherches, et notamment le nom de Julien Lénier. Julien Lénier est journaliste ici à France Bleu Toulouse, et vous avez eu l'occasion de discuter, comme avec nombre des gens qui se trouvent dans la station Jean-Pierre Huguin, et ça vous a un petit peu, on va dire, froissé, puisqu'il vous a parlé de l'origine de son nom, et vous avez senti que c'était pas forcément la vérité.
Oui, enfin, ça m'a pas froissé, il faut non, pas exagérer, mais, Pascal, quand
par
même.
Par rapport à ce que vous faites, d'un point de vue généalogique, vous avez dit, ça sent pas le vrai.
Ça me titillait
un petit peu.
Surtout que Julien a un nom, Lénier, qui n'est pas d'une écriture, on va dire, habituelle, parce que quand on entend oralement, bien évidemment, quand on entend, c'est idiot, quand on entend Lénier, on pense à une certaine écriture, alors que Julien a son nom qui s'écrit, Pascal.
L-A-I-G-N-E-Z. Et effectivement, personne ne l'écrit correctement avant qu'on donne l'orthographe. Hein. Donc, c'était déjà quelque chose qui vous avait mis sur la voie qu'est-ce qu'il vous avait dit, Julien, là-dessus?
Julien m'avait dit, bon, déjà, j'ai un nom, effectivement, comme le mien, où peu de gens savent, moi je suis passé par l'Asie, il y a des gens qui m'appellent Nguyen, je veux dire, j'entends de tout. Et Julien était dans ce cas-là, son nom aussi a écrit de différentes façons.
D'accord.
Et quand il m'a parlé de ses origines, il m'a parlé d'origine espagnole, vous savez que les Espagnols sont montés le nord de la France, la Belgique, la Hollande, avant qu'ils soient arrêtés. Ça m'allait pas du tout, parce que Lénier, non, je me suis dit, c'est pas possible.
Bon, alors.
Alors, j'avais rien dit à Julien, et puis, bon, j'ai dit, je vais travailler le sujet pour en parler à la radio, parce que, en fait, il a un nom dont on a peu parlé, puisqu'il a un nom d'origine médiévale.
Ah oui.
Donc, effectivement, des noms d'origine médiévale, on n'en rencontre pas tous les jours.
Effectivement. Hein. Ça explique cette tenue de chevalier régulière. Bon, du coup, je comprends des trucs, mais.
Voilà. Et alors, en fait, la forme ancienne de son nom, Lénier, de Julien, L-A-I-G-N-E-Z, en fait, l'origine de son nom et la forme ancienne est Lénier, L-A-I-N-I-E-R, comme on l'écrirait de nos jours, c'est normal.
Oui, hein. Je l'aurais plus écrit comme ça au départ. Et alors, ça veut dire quoi, Lénier?
Eh bien, la signification, c'est un ouvrier en laine.
Ah bah oui, très simple.
Voilà, très simple. Alors, il y a une déformation au fil des siècles, mais en fait, je pense que la déformation vient surtout des régions où ce nom a été implanté.
D'accord.
Alors, Julien n'avait pas tout à fait tort quand il me disait que c'était des gens qui étaient partis dans le Nord. Non, ce n'est pas des gens qui sont partis dans le Nord, c'était des gens qui étaient implantés dans le Nord, puisque en fait, la source de l'origine du nom Lénier, tel que Julien l'écrit, L-A-I-G-N-E-Z, il remonte fort loin, puisqu'elle est citée par un monsieur que l'on consulte, nous, dans le domaine généalogique, qui s'appelle Charles Dufresne, D-U-F-R-E, enfin D-U, et puis plus loin, F-R-E-S-N-E, qui était sieur du Gange ou du Gange. Il était né en 1610, ce monsieur, à Amiens, dans la Somme, et il est mort en 1688 à Paris. C'était un historien, un linguiste et un philosophe français. Et il a commis énormément d'œuvres qui sont vraiment des monuments d'érudition que nous, on consulte. Et donc, vous voyez, déjà, quelqu'un qui était né au XVIIe siècle avait donc déjà travaillé sur ce nom Lénier. Mmh. Et dans ses œuvres, il y en a deux connues. Alors, je ne vais pas vous citer le nom. Il y a deux œuvres qui sont des glossaires, mais je ne vais pas vous dire le nom en latin.
Non, c'est un peu long, déjà.
Voilà, c'est un peu long. Et puis, je ne pense pas que je serais bon au niveau, si vous voulez, de la façon de le prononcer. Donc, le premier, qui est un glossaire et une description médiévale des firmes latines, c'est un ouvrage en trois volumes. Et Dugange, dans cet ouvrage, explique les mots dont la signification a été détournée avec le temps. Il interprète les termes étrangers naturalisés latins par le droit de conquête. Et d'ailleurs, il complète les explications par de copieux articles sur la théologie, la jurisprudence, les mœurs au Moyen-Âge, les usages de la vie publique ou privée, le rite des églises, l'étiquette même des cours, les dignités civiles, ecclésiastiques ou militaires. Vous voyez que vraiment, il avait bûché le sujet. Hein, vraiment.
Ouais,
voilà. Et le deuxième glossaire qu'il avait fait, c'est un glossaire qui, lui, a connu encore un énorme succès parmi tous les savants européens. Et ses œuvres, à lui, à ce monsieur, donc Charles Dufresne, ont permis et permettent de nos jours de comprendre le passage qui s'est opéré en France du latin classique au latin impérial, puis au latin médiéval et finalement au français. Donc c'est pour ça que je parlais de Lénier au départ, qui était un nom vraiment d'origine médiévale, mm-hmm. pour arriver à un nom français. Et vous voyez que le nom s'est déformé au niveau de l'écriture, mais ça veut dire toujours la même chose.
Et alors, sur cette orthographe précise, L-A-I-G-N-E-Z, les données démographiques permettent de savoir que c'est un nom fort peu porté.
Exactement, puisqu'il y a eu 37 naissances sur 7 départements. Le premier département, c'est le Nord avec 20 naissances. Puis la Somme avec 7 naissances, l'Oise avec 4 et le Pas-de-Calais avec 3.
Tout reste très très haut, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé quand même.
Ouais,
hein.
Comment on dit les Hauts-de-France, c'est ouais, ça ?
Oui, maintenant.
Voilà, hein, voilà.
Bon, et puis alors, dernière information, pour la mémoire des hommes.
Alors il y a malheureusement de trop, mais il y a un soldat mort en 1418 qui se prénommait Gaston-Émile Louis Lénier, qui était né à Paris le 18 août 1880. Et il a été tué à l'ennemi le 8 septembre 1914 à Sermaise dans la Marne. Alors pourquoi j'ai cité précisément ce monsieur qui a été tué à l'ennemi le 8 septembre 1914. Il faut se remémorer comment a débuté la guerre 14-18. Eh bien, ce monsieur fut parmi les premiers tués du conflit, puisque le conflit débuta le 28 juillet 14 et il est mort le 8 septembre, donc pratiquement un mois après, quoi.
Et nous refermons l'affiche de Julien Lénier, enfin Lénier en tout cas, pour Julien Lénier. Je vais d'ailleurs aller la mettre dans son petit casier tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Pierre Huguin. On va en rester là pour aujourd'hui.
Oui, Pascal.
On a bien voyagé. On se retrouve dimanche prochain.
Oui, et puis je vais rentrer vite avant la pluie. Non, je rigole, Pascal, je rigole.
On en reparle dimanche prochain. Je vous paierai quelque chose si jamais il a plu. Et à l'inverse, je veux bien du champagne si jamais il pleut pas. Rendez-vous dimanche à partir de 9h. Et vous pouvez continuer, vous, à nous appeler au 05 34 43 31 31. C'est le standard de France Bleu Toulouse. Si vous aussi, vous voulez partir à l'aventure de votre nom de famille. Merci beaucoup, à dimanche.
Au revoir.